C'est une paracha très riche. On va voir un peu comment ça se présente. D'abord, on continue un petit peu le dénombrement. On parle maintenant des Bnei Gershon, c'est-à-dire de la famille. C'est une des familles d'Elvim. Il faut aussi dénombrer et on va faire comme on a fait avec les autres pour Bnei Gershon et Bnei Merari. Ensuite, comme pour les autres, on va donner la tâche de chacun, de chacune de ces familles. C'est les tâches qui ont à voir avec le transport du Mishkan. Quand on le transportait, il fallait le démonter. Et chacune de ces trois familles dont on a parlé ici, avait quelque chose de spécifique à transporter. On a vu la semaine dernière que la famille de Kehat, elle transportait le Aaron HaKodesh. Donc, la Torah, si on veut parler comme ça. Et puis ensuite, il y a ceux qui vont transporter les tentures, etc., celles qui couvrent le Mishkan aussi. Et puis le troisième groupe qui vont transporter les énormes poutres avec les socles, etc. Alors, on ne va pas s'arrêter là-dessus. On va regardez un petit peu ce qui vient après. Alors, ce qui vient après, qui est la première chose qui vient, c'est à Revi, disons. On prend le chapitre, la quatrième montée, chapitre 5, verset Yud Aleph. Donc, Vaydaber Hashem el Moshe les morts, Daber el Bnei Israël. Tu parles aux Bnei Israël, ve'amarta alehem, et tu leur diras, ish ish kitiste ishto, umaala bo moal. Vechachav ish ota, shikhbatzera, venela meene isha, vinistera veinit mea, veden ba, veilonit posa, ve'avar alav ruach kina, ve'kine et ishto, donc, on parle ici de quelque chose d'assez étrange, en fait. On sait bien on a vu dans la Sourate Adibrot, il y a un issour d'adultère. Et ici, on va nous parler d'une femme qui est éventuellement adultère. Jusqu'au bout, on ne saura pas du tout si elle est adultère ou pas. Tout à la fin, on le saura. Et encore, peut-être pas vraiment. Alors, il va se passer quelque chose d'assez étrange. La sanction pour un adultère, que ça concerne la femme ou l'homme, c'est une peine de mort. Ici, si la femme en question s'avère avoir été adultère, alors, elle va être sanctionnée. Mais quand on donne la peine de mort pour un adultère, c'est toujours parce que on a averti les parties, l'homme et la femme. On les a avertis, on leur a dit ce qu'ils transgressaient en étant adultère. On leur a dit ce qu'ils encouraient comme peine de mort. Et ils ont quasiment accepté ça, et ils ont agi, comme toujours, dans les secondes qui suivent l'avertissement. Et là-dessus, il y a donc deux témoins, le témoin cachère, qui les ont avertis, donc. Et c'est d'après ça que le tribunal va, le cas échéant, prononcer une peine de mort. Ici, cette femme-là, elle n'a pas été avertie par des témoins. Donc, comment se fait-il qu'elle soit condamnée? Et en plus, la peine de mort à laquelle elle est condamnée, le cas échéant, c'est aux mains ce qu'on appelle une mita meshuna. C'est une peine de mort tout à fait étrange. C'est le corps qui se décompose littéralement. Il n'y a pas d'exemple d'une peine. C'est quoi cette peine de mort? Ça correspond à rien de connu. Puis c'est basé sur quoi? Alors la femme, le texte commence et dit, on parle d'une femme qui, comme ils ont traduit ici, elle s'égare et elle commet une trahison envers son mari. C'est vu d'abord présenté comme une trahison. Le mot qui est utilisé, ils ont traduit ça par trahison. Le mot qui est utilisé ici, c'est me'ila ou ma'ala ma'al. Me'ila, c'est un terme qui veut dire le vol. Mais le vol de quelque chose qui appartient à Hekdesh, quelque chose qui appartient au Bet Amigdash, si vous voulez, qui a une kedusha. Quand on vole, alors il y a des règles, et quand on vole, mais qu'on le volet est Hekdesh, le Bet Amigdash, les possessions du Bet Amigdash, alors en plus de la loi standard qui veut qu'on doive rembourser, etc., il y a un korban qui s'appelle korban meila. Donc il y a une dimension particulière puisque on est intervenu sur des choses sur lesquelles on a encore moins le droit d'intervenir parce que ça appartient à Hekdesh, c'est même pas appartient à un autre homme, mais c'est quelque chose qui appartient, si vous voulez, au fonctionnement de la Voda pour Hachem. Or, on utilise ce mot de Meila pour décrire, on est dans l'hypothèse où il y aurait eu effectivement un adultère, pour décrire ce qui s'est passé quand cette femme est adultère par rapport, donc la femme est adultère, ça veut dire qu'il y a eu une tierce personne qui a eu un rapport avec elle, par rapport à son mari. Qu'est-ce que ça fait par rapport à son mari? Alors, par exemple, autant quand on parle des Bnei Noach, l'adultère par rapport à un Bnei Noach, c'est considéré comme un vol. C'est-à-dire la tierce personne a volé la femme à son mari. On ne dit pas ça. En général, on ne dit pas ça. Ici, on dit c'est une transgression, c'est un rayot, c'est herva. Quelque part, c'est plutôt dans la famille élargie de la notion d'inceste, quelque part. Alors, c'est pas vraiment un inceste, mais bon, c'est comme si, d'une certaine manière, celui qui commet un adultère, donc qui a un rapport avec la femme de quelqu'un d'autre, c'est comme si, en fait, il avait eu un rapport avec sa sœur, sa propre sœur. C'est dans la même liste, en fait. Je veux pas entrer dans ces analogies, mais enfin, c'est dans la même liste. Donc, c'est pas vu comme un vol, d'habitude. Mais ici, c'est présenté comme un vol. C'est pour ça qu'ils ont traduit trahison, parce que c'est un vol. Mais, disons, le volé ne sait pas de façon certaine qu'il a été volé. Il n'est pas témoin de quoi que ce soit. Il n'y aura d'ailleurs pas de témoin de quoi que ce soit, peut-être pas dire de quoi que ce soit, il n'y aura pas de témoin de l'adultère. Normalement, il faut un témoin, il faut deux témoins d'adultère, Bon, s'ils sont pas, ils sont témoins de l'adultère, c'est-à-dire s'ils ont vu que les personnes se sont isolées un temps correspondant à la possibilité d'un rapport, etc. Donc là, on considérera, ils ont été avertis, comme on vous a dit, etc. Là, on pourra dire que ça, on va appeler ça des témoins de l'adultère. On ne leur demande pas d'avoir été témoin effectivement de l'acte lui-même. Mais ici, il n'y a pas de témoin de l'acte. Il va y avoir des témoins, mais les témoins, ils sont effectivement témoins de ce qu'il y a eu un isolement. Alors, vous pouvez regarder vous-même la traduction de la totalité, je veux juste dire encore comment ça se présente. La Torah, elle dit que il y a un homme qui a un esprit, comme ils ont traduit, un esprit de jalousie sur lui, et il a averti, lui, il a averti sa femme. Il lui a dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec cette personne-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Disons, mettons-nous dans le idéal, il a devant deux témoins, il a averti sa femme, il a dit, je t'interdis de t'isoler avec telle et telle personne. Alors, il y a deux possibilités. Disons, la femme, elle peut se dire, pourquoi on me soupçonne, pourquoi il me soupçonne d'une chose pareille? Et d'ailleurs, moi, je pourrais très bien m'isoler avec cette personne, il ne se passerait rien de mal. Et donc, elle peut très bien s'isoler en voulant, à la limite, démontrer que moi, c'est pas parce que je me suis isolé avec cette personne qu'il s'est passé quelque chose de mal. J'étais isolé, mais il n'y a pas eu d'adultère. Ou bien, effectivement, elle a passé outre, ça lui était égal, elle voulait effectivement s'isoler et avoir une relation avec cette personne. La femme, elle fait ici une erreur. Elle n'aurait pas dû s'isoler. Alors elle s'isole, il y a deux témoins qui voient qu'elle s'est isolée. Mais on ne sait toujours rien de ce qui s'est passé. N'y a donc pas de vrais témoins. Ensuite, c'est pas la femme, elle n'a pas été kidnappée. L'isolement a été la résultante du kidnapping, je veux dire. Et lui, il l'avait averti, et donc elle n'a pas tenu compte de ça. Alors, ils mettent tous les doigts, tous les deux, le doigt dans un engrenage. Lui, l'ayant averti, et quand elle a passé outre, alors lui, il est obligé de continuer la procédure. Il va amener sa femme à un Cohen, au Cohen, un Cohen de service. Il va l'amener, il va apporter même, en fait, une mincha, une offrande. C'est lui qui apporte une offrande au nom de sa femme, en quelque sorte. Alors, son offrande, là, ça a ceci de particulier, que l'offrande est en orge, avec toujours la connotation que l'orge, c'est la nourriture animale. Et donc, il va apporter cette mincha, cette offrande, mais on ne va pas la garnir. D'ordinaire, quand on apporte ce genre d'offrande, on mettait de l'huile, on mettait de l'encens, etc. Et là, elle vient dans sa nudité de crêpe, quoi, de farine et eau. OK, et donc, bon, ça s'appelle une mincha de knaot. C'est-à-dire, c'est une mincha qui exprime la jalousie du mari. Alors, de ce mari, la Torah dit tout de suite que cette jalousie, elle est peut-être justifiée, mais elle peut être aussi pas justifiée du tout. Bon, c'est quelqu'un de... Peut-être il est sous polaire, peut-être il est sous... Bon, je sais pas. Il se sent pas à l'aise et il réagit avec jalousie, alors que peut-être il n'a pas vraiment de bonnes raisons d'être jaloux. Alors, bon, le Kohen va apporter, va approcher, comme une mincha, c'est une mincha, donc il va l'approcher, et on va mettre cette femme, on va la faire se tenir devant Hachem, en quelque sorte. Et puis, on va prendre de l'eau. On va mettre dans cette eau, on va la mettre dans un récipient en argile. Et cette eau, c'est de l'eau qui est appelée Maim Kedoshim, de l'eau sainte. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Sacré. Rashi dit Maim Kedoshim, le pasuk Yudzayin, vous avez Rashi, qui dit Shekichu Bekior. Alors, ça veut dire que cette eau, elle provient du Kior. Le Kior, c'était ce clé en cuivre. Dans lequel justement on gardait l'eau et ça donnait une certaine kedusha à l'eau en question. Donc on prenait cette eau-là et on ajoutait, donc c'est dans un clé en argile, et on va prendre du afar asher yé bekarka mishkan. On va prendre de la poussière qui est la poussière du sol du Mishkan.
Du Mishkan.
Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un écho comme ça? Cette poussière qui s'appelle donc Afar, on va mettre cette poussière dans aussi avec l'eau, donc l'eau en question. Et donc, cette femme, elle va, on va commencer la procédure, en quelque sorte, ici. Donc, l'eau va rester dans les mains du Kohen, mais le Kohen va mettre l'offrande, la mincha, la crêpe en question, là, dans les mains de la femme. Elle va se tenir comme ça en tenant cette mincha. Et alors, il va y avoir déjà une forme d'une dégradation de la femme. C'est-à-dire, en fait, on va découvrir la tête de cette femme, si elle a des cheveux, je sais pas, une chevelure de travailler, on va défaire toute la construction, en fait. On va la rendre échevelée quasiment. Ensuite, ces os-là, qui sont ustensile en argile. Ces eaux s'appellent des eaux amères, disons. Et alors, dans cette situation-là, le Kohen va faire jurer la femme. Il va lui dire, tu dois jurer. Pour jurer, il va dire ce sur quoi elle doit jurer, Elle doit dire Amen, ça veut dire je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire devant moi. Alors il lui dit donc, il dit que si un homme n'a pas eu de commerce avec toi, si tu t'es pas dévoyé en te souillant avec quelqu'un d'autre que ton mari, alors sois innocenté de ces eaux amères qui provoquent, ils disent, la malédiction. Mais si tu t'es égaré avec quelqu'un d'autre que ton mari, si tu as été souillé, qu'un autre homme que ton mari ait eu un commerce avec toi, tu vas devoir accepter ce qu'on va te dire là maintenant. C'est une voie qui aura qui inclut une klala, une malédiction. Il va lui dire qu'Hachem fasse de toi un sujet d'imprécation, de serment parmi ton peuple, qu'Hachem fera s'enfler ton ventre, s'effondrer ton flanc, ces eaux qui provoquent la malédiction pénétreront dans tes entrailles pour faire s'enfler le ventre, s'effondrer le flanc. Et la femme devra répondre Amen, Amen. Tout au long de cette procédure, jusqu'à un moment que je vous signalerai, la femme, à tout moment, elle peut dire, je continue pas. Je continue pas. Ça veut dire rien du tout. Elle avoue rien du tout. Elle peut très bien dire, peut-être que c'est vrai d'ailleurs. Moi, j'ai peur de tout ce cinéma-là. C'est extrêmement impressionnant. C'est fait pour l'impressionner d'ailleurs, mais c'est peut-être trop impressionnant, ça fait trop peur. Elle dit tant pis, les relations ne sont pas probablement au beau fixe entre eux, donc elle dit je préfère divorcer, je vais perdre le montant de ma ktouba, c'est-à-dire je vais divorcer, je ne recevrai pas le montant de compensation qu'il y a quand on divorce, mais je préfère divorcer. Et là, le mari ne pourra pas s'y opposer, elle dit j'arrête. Et je descends du train, quoi. J'arrête là l'opération. Et d'ailleurs, on voudrait bien qu'elle arrête. On a très très peur qu'elle continue et qu'elle soit effectivement adultère. On n'a pas du tout envie qu'elle meure de cette manière-là. Donc on l'incite, on lui dit vraiment, t'as même pas besoin de dire, d'avouer quoi que ce soit, même si tu dis je continue pas parce que je suis effrayé, ok, c'est très possible qu'effectivement elle soit effrayée et que même si elle est totalement innocente de tout ce dont on l'accuse, eh bien, elle veut pas continuer, donc c'est tout. On peut penser que les relations entre eux ne sont pas au beau fixe, s'ils en sont à se faire des trucs de ce genre-là, peut-être que les relations, elles se disent, bon, tant pis. On arrête. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est que cette paracha que nous sommes en train de lire, le Cohen, il va la réécrire, il va la copier sur un parchemin, juste cette paracha-là, et il va tremper ce parchemin dans l'eau, dans les eaux amères, et donc jusqu'à ce que tout ce qu'il a écrit s'efface, donc il y a de l'encre qui va entrer dans ces eaux amères, et donc quelque part, étant donné que dans le texte que nous avons, il y a une mention du nom d'Hachem, d'accord, vous avez, par exemple, vous avez au chapitre 20, au verset 21, Vishbia Kohen et Taïcha, quand le Kohen fait jurer la femme, Shvoat Ha'ala, c'est donc une shvoa de Klala, et le Kohen lui dit, Iten Hashem Otach Le'ala Vishwa. Qu'Hashem te mette dans cette situation où la Klala te touche, te concerne. Et donc, et plusieurs fois, juste après, de nouveau, donc Hashem, enfin, c'est Dieu. Le Cohen va effacer le nom divin. Comprenez bien qu'effacer le nom, c'est très grave, effacer le nom divin. On n'a pas le droit, s'il y a un lave, d'effacer le nom divin, de tétragramme. Et on le fait. On explique, on dit, Hachem, a accepté d'effacer son nom divin dans cette procédure-là. Et la femme va devoir boire cela. Elle boit cette eau avec un peu de poussière, poussière du Beth Amikdash, enfin, ou du Mishkan, et l'encre, en fait, enfin, un peu d'encre, l'encre avec laquelle il avait écrit toute la paracha en question. Et à ce moment-là, ces eaux vont être en elle. Donc, si vous voulez, ça, dans l'idée, il faut comprendre, le nom divin est en elle maintenant. Et donc, il y a une confrontation entre son intériorité, ce qu'elle est en profondeur, sa pnimiut, et le nom divin. Alors, on comprend bien que ce qui va se passer, c'est que si elle est adultère, eh bien, elle va pas supporter le nom divin, et c'est ça qui, et c'est de ça qu'elle va mourir. C'est-à-dire, elle va mourir de ce que elle ne peut pas supporter en elle le nom divin, vu sa conduite. Mais, si en fait elle est innocente, en la présence du nom divin en elle, va lui apporter toutes sortes de brachot, toutes sortes de bénédictions. Bénédictions qui sont dans cet ordre-là, ça veut dire que si elle n'avait pas d'enfant, elle en aura. Si elle avait des garçons, elle voulait une fille, elle aura une fille. Si elle voulait un garçon, elle aura des garçons, etc. Si elle avait des accouchements difficiles, elle aura des accouchements faciles, etc. Dans toute cette sphère-là, la fabrication d'une descendance, depuis depuis la grossesse jusqu'à y compris l'accouchement, ce sera une bracha pour cette femme-là. Ensuite, d'ailleurs, le mari qui a mis en marche, en fait, cette confrontation avec le nom divin, c'est quelque chose comme une ordalie, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si le mari avait dit à Hachem, c'est toi qui dois juger. Je me contente pas de ce qui se, d'un tribunal, parce que il a pas de preuve pour aller au tribunal, il y a personne pour un tribunal. Mais je veux qu'Hachem lui-même se dérange en quelque sorte et vienne me garantir que cette femme-là m'est permise. Alors du coup, lui, il pourra plus jamais divorcer. Il a perdu le droit de divorcer. Elle pourra divorcer, donc. Lui ne pourra pas décider de divorcer. Maintenant, elle, en théorie, elle peut divorcer. Alors, si évidemment elle est fautive, ben, ce sera sa faute. Et sinon, ben, c'est au contraire, ce sera une bénédiction. Alors, c'est très compliqué, en fait. Il y a tout un volume de la Gemara sur cette situation de cette femme, de cette sota. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes. C'est que toute la procédure de dégradation, par exemple, on l'applique alors qu'on ne sait pas du tout si la femme va être ou non innocentée, si on veut parler comme ça. Donc, si on veut justifier qu'on lui fasse déjà à ce moment-là, alors qu'on n'a encore rien vu, qu'on la traite de cette façon-là, ça veut dire que sur quoi on peut s'appuyer pour ça, c'est uniquement parce qu'elle s'est isolée. Elle s'est isolée alors qu'il lui avait dit de ne pas s'isoler. En fait, quand elle s'est isolée, qu'il le lui ait dit ou qu'il ne lui ait pas dit, c'était interdit. On n'a pas le droit, un homme et une femme n'ont pas le droit de s'isoler. Une femme ne peut pas s'isoler avec quelqu'un d'autre qu'avec son mari. Et donc, elle a fait une faute. Mais dans le... Si ce n'était pas dans le cadre de cette procédure-là, Une femme qui s'isole avec un étranger, avec un homme qui n'est pas son mari, elle n'est pas interdite à son mari. Lui, elle ne fait pas de procès, il lui arrive rien, quoi. Ils ont, en tout cas, ça, elle s'arrange avec le ciel. Ensuite, ça c'est pas marqué dans le, disons, ça se lit pas ici dans le texte, mais en réalité, cette histoire que ces eaux vont faire le job, elles vont clarifier la situation. La vérité, c'est que ça ne marche que si le mari n'a pas fait de faute. Si le mari a fait lui aussi des fautes, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas? Ça veut dire que le résultat des courses sera qu'elle est permise. Puisque, voilà, elle ne va pas mourir. Donc, ça veut dire qu'elle est permise. Donc, lui, avec ça, maintenant, il n'aura plus le droit de divorcer. Et il ne sait toujours pas ce qu'il en est. Parce que si lui, là, il n'était pas net non plus, ben, il ne sait pas. Il n'y aura pas de réponse. Plus exactement, la réponse lui dira, regarde, si lui, au fond de lui-même, il sait, oui, moi, je n'étais pas tout à fait net non plus, eh bien, il pourra se dire, là, maintenant, je me suis complètement coincé. D'accord? Cette femme, maintenant, je suis obligé de rester avec elle. Je ne peux pas divorcer, même si j'en ai envie. Et je ne sais toujours pas si elle était idolâtre, si elle était adultère ou pas. C'est une chose. Et puis il y a une autre question qui est que il y a un principe qui s'applique là et qui s'appelle Srut Tolé. Le mérite de la femme peut avoir un effet suspensif sur la sanction. C'est-à-dire que par exemple, on verra si la femme a un certain mérite, alors et qu'elle est adultère, alors elle ne sera pas sanctionnée tout de suite. Peut-être que ça va durer plusieurs années et que ça a l'air d'une maladie qui progresse, etc. Et tout va pas se produire tout en même temps. Donc, il n'y aura pas, publiquement, on verra rien, quoi. On verra pas la sanction. De quel mérite il s'agit? Le seul vrai mérite qui fonctionne là-dedans, c'est un mérite qui a à voir avec la Torah. Et le mérite en question, c'est une femme, il s'agit d'une femme qui attend son mari et ses enfants qui sont allés étudier. Et bon, elle les attend, elle leur prépare des bons repas, etc. Et donc, du coup, elle a un mérite dans l'étude des maris, de mari et des enfants. Et c'est ce mérite-là qui a cet effet suspensif. Alors, c'est très compliqué parce que c'est difficile d'imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire suspensif? Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'on a une femme qui a ce mérite-là et qui est également adultère. Bon, alors il faut entrer, ou bien on entre dans la psychologie, ce que je n'ai pas l'intention de faire. Sinon, il faut essayer de réfléchir, d'essayer de se représenter ce que ça pourrait bien dire. Vous savez ce que ça veut dire. Vous avez donc une femme qui comprend l'importance de l'étude, qui paye de sa personne dans ce domaine-là, et n'est pas adultère. Donc, ça peut paraître paradoxal. Mais si on va jusqu'au bout de ce que la Gemara nous dit, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc ça, c'est la paracha Sota. C'est intéressant, elle s'appelle une Sota. Et le mot de Sota, c'est un substantif avec le verbe. Ish qui tiste ishto. Donc, sa femme, elle a Elle a dérivé, elle s'est égarée. Alors, il y a encore une chose que je voulais voir avec vous. Cette histoire de la terre, le Afar, qu'on met, le nom d'Hachem, on comprend, voilà. Mais pourquoi il faut mettre la terre? Qu'est-ce que ça a à voir avec la terre du Mishkan? Bon, alors c'est la terre, le support en quelque sorte de la présence divine dans le monde. Et puis ici, il s'agit de quelque chose de très important. Seulement cette terre-là, qui se dit Afar, elle caractérise à ce point-là toute la mitzvah, que vous savez probablement que quand Avraham Avinu est allé délivrer Lot dans la guerre, et il a gagné la guerre, et il avait du butin, et le fameux roi de Sodome, avec sa chutzpah, il lui a dit « Tu peux prendre le butin, laisse-moi les hommes. » Et Avraham Avinu a dit qu'il n'allait pas, il n'allait rien prendre de tout le butin, du tout. Et là-bas, il dit, je ne prendrai ni une lanière, ni un fil. Et là-dessus, on dit que parce qu'il a dit ça, il a eu le mérite d'avoir la mitzvah des tefillin, qui a à voir avec la lanière, et la mitzvah de tzitzit, qui a à voir avec les fils. À un autre endroit, Avraham Avinu parle de lui-même et il dit « Anochi afar va'efer »« Je suis poussière et cendre. » Et là-dessus aussi, nos maîtres disent « Parce qu'il a dit qu'il était poussière et cendre, il a eu droit à deux mitzvot. L'une qui a à voir avec la poussière, c'est celle-là, c'est Sota. Et l'autre qui a à voir avec les cendres, c'est la paradouma, c'est la vache rousse qu'on brûle pour fabriquer les eaux lustrales, comme on dit en français, celles avec ces eaux avec lesquelles on va asperger celui qui est à Mémet, celui qui est impur, parce qu'il est venu en contact d'un mort. Et donc, pour le purifier, il y a une procédure qui utilise justement cette vache rousse. Donc, Avraham Avinu a deux mitzvot parce que sa modestie, quand il dit je ne suis rien du tout, je suis poussière et cendre, ça lui donne deux mitzvot vraiment très intéressantes. On comprend la mitzvah de Paradouma. Enfin, Paradouma, c'est donc la procédure de purification, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de sortir de la mort. D'accord? Bon, on comprend. Mais la mitzvah, de dire qu'il a été zoché à la mitzvah de la procédure de la sota, c'est de ça qu'il s'agit, c'est un peu intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la procédure de la sota, c'est vu comme quelque chose qui est de l'ordre du chesed. Parce que sinon, ce n'est pas une récompense pour Abraham Avinu. Donc, c'est du chesed tel qu'on l'a décrit, on ne voit pas très bien où est le chesed dans cette affaire. Mais il faut comprendre que toute cette procédure-là, elle est faite pour réconcilier en quelque sorte un couple qui va mal. Donc c'est une procédure pour essayer de. C'est comme si Hachem allait s'occuper maintenant lui aussi. Il accepte de s'occuper d'un problème de Shalom Bayit dans cette maison-là. Il y a un problème entre l'homme et sa femme, et l'homme, il fait appel à Hachem. On pourrait dire, c'est pas Hachem, on n'appelle pas Hachem pour ces questions-là. Et donc, justement, Akash Bokhu il a donné par le mérite d'Avraham Avinu. Il a accepté en quelque sorte de s'occuper de ces problèmes-là. Et donc, allant jusqu'à accepter qu'on efface son nom. Au moment où on efface le nom, on ne sait pas du tout si ça, si la procédure va continuer d'ailleurs. Ou bien on ne sait pas du tout ce qu'elle va donner plus exactement. Parce qu'après, à ce moment-là, une fois qu'on a effacé le nom, la femme, elle ne peut plus dire maintenant, je ne continue pas. Parce que tu es allé trop loin, on a effacé le nom d'Hachem, maintenant il faut que ça serve à quelque chose. Et donc, ça va servir éventuellement à montrer que vous pouvez très bien vivre ensemble. Et donc, elle dit, moi, Hachem, je vous dis que vous pouvez vivre ensemble. Et donc, ça, c'est le mérite d'Avraham Avinu. Et ça vient de la, un ava de la modestie, de l'humilité d'Avraham Avinu. Ça, si vous voulez, c'est son humilité, elle a quasiment généré une démarche qu'on pourrait qualifier d'humilité de la part d'Hachem, qui accepte de donner son nom et de s'impliquer dans ce problème de Shalom Bayit. Voilà, donc c'est la deuxième fois, si vous voulez, qu'on voit que Hachem, si on veut, fait la même chose qu'Abraham Avinu. Vous vous souvenez, quand Abraham Avinu a fait la guerre pendant la nuit pour délivrer Lot, Hachem a dit, toi, tu as transformé la nuit en jour pour délivrer Lot, et ça, Abraham Avinu l'a fait sur la première moitié de la nuit. Cette nuit-là, c'était la nuit du 14 au 15 Nissan. C'est-à-dire, c'est la nuit de la sortie d'Égypte. Et donc, Hachem a dit à Abraham, moi, je ferai pour tes enfants ce que toi, tu as fait pour Lot. Moi aussi, je vais transformer la nuit en jour. On dit qu'à Yetziat Mitzrayim, dans la nuit de la sortie d'Égypte, on y voyait comme en plein jour. Donc, Hachem, en quelque sorte, il a fait ce que Abraham Avinu a fait. Et ici, cette démarche de Anava d'Abraham Avinu, si on peut parler comme ça, elle génère la démarche de, qu'on pourrait appeler un ava, mais qui parle, un ava de la part d'Hachem, qui lui, maintenant, va s'impliquer là-dedans. Bon, ça, c'est la sota. Juste après la sota, il y a la parcha qui vient. Donc, c'est au chapitre 6, les premiers versets. Daber el bnei Israël, ve'amarta alehem, ish o isha, un homme ou une femme, ki yafli lindor neder nazir le'azir l'Hashem. Un homme ou une femme qui prennent sur eux une procédure de vœux, ils font un vœu, de devenir nazir. Un homme ou une femme peuvent devenir nazir. Si on devient nazir, nazir c'est un état. Dans cet état-là, on n'a pas le droit de boire du vin ni de manger tout ce qui est de tout ce qui a à voir de près ou de loin avec le raisin. Ensuite, on n'a pas le droit de se rendre impur par contact avec un mort, donc on ne peut pas enterrer quelqu'un, on ne peut pas aller dans un cimetière. Et ensuite, on n'a pas le droit de couper ses cheveux jusqu'à la fin de la procédure, ou alors on va à ce moment-là couper les cheveux. Donc, c'est un problème. Qu'est-ce que c'est un nazir? C'est quelqu'un qui fait un vœu de prendre sur lui un statut qui va en particulier le priver de certaines choses. Privé, entre autres, le privé de vin et de raisin et de tout ce qui va autour, tout ce qui va avec. Se priver de quelque chose, la Torah, elle considère que c'est un chet, c'est une faute. Et de fait, on va dire que ce nazir-là, il fait une faute. Il se prive de quelque chose. Hachem a créé les choses et il nous les a mis à disposition. Ça veut dire qu'avec ces choses-là, on peut les mettre au service d'Hachem. Ça nous permet de faire des choses qu'on peut mieux faire ou qu'on ne peut faire qu'avec ces choses qu'Hachem nous a données. Le vin, c'est connu, c'est quelque chose qui donne un état de simcha, a priori. Et donc, la jouissance du vin, se priver de la jouissance du vin, c'est se priver de quelque chose qu'Hachem a mis à notre disposition. Et c'est pas bien. De la même manière qu'on va dire que c'est pas bien de jeûner. Quand on est, de faire trop de jeûne, c'est pas une bonne chose. Il y a toujours des aménagements, des situations, etc. Mais dans l'idée, c'est la privation, c'est pas le derer. Le derer de la Torah, c'est pas le derer ni de devenir un ermite, ni de devenir quelqu'un qui se prive de tout. Et là, du coup, évidemment que la Torah, elle a, enfin, les Rachamim, ils ont réagi à la juxtaposition des deux parashiot. Pourquoi est-ce que la parasha de Nazir est dite juste après la parasha de Sota? Alors, Rashi sur le deuxième pasouk, Ishki Yafle, c'est-à-dire qu'il fariche. Yafriche, où il se sépare. Enfin, où il fait quelque chose de. C'est à la fois Yafriche, mais aussi Yafarèche. On va voir, on va y venir tout de suite. Rashi ramène, Laman Ismecha Parchat Nazir, le Parchat Sota. Pourquoi est-ce que la parashat Nazir est juxtaposée à la parashat Sota? L'Omar lecha, pour te dire, Shekola roe, Sota bekilkula, Yazir atzmo minayayin. Alors il faut qu'il se prive du vin. Pourquoi? Parce que le vin, Sheu mevi lidei niuf. Le vin peut amener à des situations qui mènent à une situation d'adultère. Alors ça, c'est déjà un peu spécial. D'abord, premièrement, à Roé Souta Bekilkula, il n'y a presque personne qui voyait. D'accord? Donc, c'est pas terrible. C'est pas une exécution publique sur la place de grève. Je veux dire, c'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. Ça se passe dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui voit. Mais bon, l'idée est, donc ça veut dire que quand tu vois quelque chose, ici, c'est. Alors, il y a Ziras Mominayay. On ne voit pas dans les mises à mort, par exemple. La Torah, elle dit que quand on mettra à mort quelqu'un, alors les gens viendront, ils vont voir, et ils vont en prendre de la graine, et ils vont avoir peur de fauter. Mais ce n'est pas marqué que celui qui a vu l'exécution d'un malfaiteur, il doit prendre sur lui une conduite qui va dans le sens de faire en sorte qu'on n'en arrive pas à la situation de commettre le crime en question. Comment se fait-il que, par rapport à la sota, il ne suffit pas de dire que, on dit ils ont vu. Alors s'ils ont vu déjà ce qui lui arrive, eh bien, ça devrait suffire. Voilà, ils ont vu, donc ils devraient avoir peur, donc ça devrait suffire pour que les gens ne fassent pas de faute, comme pour toutes les autres sanctions. Pourquoi ici on dit non, non, ça ne suffit pas. Il faut qu'ils prennent sur lui quelque chose. Il faut que l'histoire du vin, hein, quand on. Je vous ai dit que tout au long de la procédure de la sota, en tout cas jusqu'au moment où on efface le nom d'Hachem, on incite la sotah, la femme en question, lui dit, écoute, surtout ne crois pas que tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Tu peux très bien dire que tu ne veux pas continuer. Et ça débouchera sur un divorce et où tu n'auras pas la ktouba, le montant de la ktouba, mais bon, c'est que de l'argent. Alors, une des choses qu'on leur dit, qu'on dit à la, on, enfin, à ces femmes, on leur dit, il y a toutes sortes d'excuses. Peut-être que tu as trop bu, vous avez trop bu, c'est pour ça que c'est est arrivé l'accident, c'est pas, ou bien c'est les voisines, les voisins, etc. On suggère toutes sortes de choses et une des suggestions, c'est peut-être que vous étiez en état d'ébriété, vous avez trop bu et c'est comme ça que ça a dérapé. Et donc on dit, voilà, si on voit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Se priver complètement de vin pour ne pas risquer que ça dérape. Se priver de vin, ça veut dire se priver de vin, de kiddush, etc. Il faut on débrouiller autrement, faire kiddush sur du pain, etc. OK? Ça veut dire même les mitzvot, en fait. Même dans le cadre des mitzvot, tu ne pourras pas de vin. Donc c'est un peu étonnant d'aller être aussi extrémiste pour ce problème de. En plus, le problème de la sota était probablement pas du tout un problème très fréquent. C'était pas. Je suis pas sûr que ça a jamais existé. Mais il y a un texte en Yerushalmi qui semble dire, si je me souviens bien, que là-bas on se demande, est-ce qu'une femme peut boire deux fois? Ça veut dire, est-ce qu'une femme qui a été sota avec son mari, puis ensuite elle a divorcé de ce mari, elle s'est remariée, et avec le deuxième, rebelote, elle peut passer deux fois par là-haut? Bon, Chalmi, je crois qu'il soulève ce problème-là. Donc, il a l'air, et dans le contexte là-bas, il a l'air de dire que il y a un cas où ça a existé. Mais autrement, dans la Gemara, on ne voit pas qu'il n'y ait jamais eu un cas, un vrai cas de sota. Donc, si ça se trouve, la question ce qui est décrit là, c'est purement théorique, c'est-à-dire c'est uniquement un objet d'étude. Du coup, il faut se demander quels sont les problèmes qui sont soulevés dans cette paracha de Sota, pour que ce soit tellement important qu'on mette ça comme sujet d'étude, en fait. Il faut regarder tous les points, effectivement, et essayer de voir en quoi ça nous concerne. Comme ça. Dans tous les sujets d'études, c'est comme ça. Donc, il y a le nazir. Alors, nazir, c'est, comme je vous ai dit, c'est un vœu. Un vœu, c'est une situation où la Torah, elle va valider la parole humaine à la même hauteur que, si on peut parler comme ça, la parole divine. Un vœu en général, si quelqu'un fait un vœu, alors un vœu, ça utilise une formulation bien précise. Alors, par exemple, si quelqu'un fait un vœu, par ce vœu-là, il veut, par exemple, s'interdire de manger des pommes vertes. Alors, il va formuler les choses en disant, je veux que les pommes vertes me soient interdites de la même manière que la viande d'un corban m'est interdite. Bon, je n'ai pas le droit de manger la viande d'un corban. Alors, par exemple, qu'elle soit interdite, on pourrait dire, alors il y a les Kohanim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils mangent des fois, Alors, disons que c'est la viande d'une hola, par exemple, d'un holocauste, c'est-à-dire une viande d'un corban qui est entièrement consumée. Les hommes n'en mangent pas du tout. OK? Donc, il dit, c'est comme ça, on transfère en quelque sorte l'interdit que la Torah a mis sur la consommation de la viande d'une hola, par exemple. On va transporter cet interdit sur les pommes vertes. Donc, pour moi, c'est comme si c'est interdit de la même manière qu'eux. C'est clair? Ça, c'est un vœu. C'est la façon, il faut cette formule-là pour que ça marche. Si quelqu'un dit en français, je fais le vœu de, et c'est pas un aider. Il faut savoir, peut-être qu'il est engagé parce que tout ce qu'on dit nous engage, mais c'est pas du tout un vœu. Alors, il y a des vœux de toutes sortes. Et là, il y a un vœu particulier. Il fait un vœu d'avoir la condition qui s'appelle nazir. Alors, si je vous ai dit, il y a trois choses que le nazir, trois dinim, trois halakhot spéciales du nazir concernant le vin, concernant le problème de cimetière, d'entrer dans le cimetière sans vin pur, et le problème des cheveux. Mais si quelqu'un prenait sur lui, je m'engage à ne pas boire de vin, ni etc. Ça. Je m'engage par ailleurs à ne pas me rendre impur. Je m'engage encore également à ne pas me couper les cheveux, etc. Il ne devient pas nazir pour autant. Il aura pris ces trois vœux séparément. Nazir, c'est une condition particulière. C'est cette condition. C'est comme si quelqu'un disait, je veux devenir Cohen, par exemple. On ne peut pas devenir Cohen, mais on peut. Donc et alors, s'il est Cohen, s'il pouvait devenir Cohen, du coup, il ne pourrait pas épouser une femme divorcée, il n'aurait pas le droit de se rendre impur, etc. Là, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, le nazir, ce n'est pas très loin de la condition. Sur certains points, il ressemble au Cohen aussi. Et donc, voilà, il se donne un statut, un sur-statut. Il est déjà un juif avec le statut des 613 mitzvot. Et maintenant, il se prend une mitzvah supplémentaire, un statut supplémentaire, nazir, avec des conditions. Donc, c'est vu de façon, a priori, ça peut être vu de façon négative. Parce que la question qu'on peut poser, c'est, est-ce que ce que la Torah te demande, déjà, si c'est en train de mitzvah, tu penses que ce n'est pas suffisant? Tu penses qu'on ne peut pas, en respectant ces 613 mitzvot, on ne peut pas s'élever suffisamment, on ne peut pas se rapprocher suffisamment d'Hachem, il faut que tu en rajoutes une couche supplémentaire? Pourquoi tu as besoin de ça? Pourquoi est-ce que ça ne te suffit pas, ce que la Torah t'as déjà imposé? Là, c'est le côté négatif. Et puis, bon, il y a un côté négatif aussi par le fait que peut-être c'est quelque chose qu'on a mis un peu dans le état second. Quelqu'un était impressionné, ou y compris parce qu'il avait une sota, ou bien pour autre chose. Et puis, il a fait devenir nazir. Okay, il devient nazir. Le nazir minimum, combien de temps ça dure? Le nazir minimum, enfin, c'est pas minimum, mais si on dit rien, c'est 30 jours. Mais tu peux dire plus longtemps ou moins longtemps. À ce moment-là, il faut le préciser. Si tu dis rien du tout, c'est 30 jours. Alors, 30 jours, ça peut être long. Et le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe si quelqu'un se casse la figure et c'est pareil, par erreur, il va chez le coiffeur. Ou elle va chez le coiffeur, ça peut être une femme aussi, hein, une ancienne. Ou bien par erreur, il rentre dans un cimetière. Ok. Tout est à recommencer. Alors vous imaginez, ça lui arrive au 28e jour. Bon. Il a déjà fait 28 jours, etc. Maintenant, il est reparti pour 30 jours. Bon, et puis, ça peut se faire plusieurs fois. Alors, est-ce qu'il est vraiment toujours d'accord, toujours enthousiaste pour la nausée route quand ça commence à durer? C'est pas évident. Alors, quand il réussit vraiment, quelqu'un réussit, il est appelé Kadosh. Il n'empêche qu'il est appelé aussi, il est aussi appelé Tamé, parce que bon, c'est quelqu'un qui se prive en fait. Roté, pas Tamé. Roté, il est appelé Roté, c'est fautif. Il est à la fois fautif et aussi, ben c'est super, il a réussi l'opération. Ben, on peut très bien dire ça. On peut très bien, ça existe des gens qui font quelque chose d'interdit. Il fallait pas le faire, mais si tu le fais, ça peut être très bon, ça peut être très très bien, ça peut être très utile. Quelqu'un entre par erreur ou même volontairement, il entre dans la propriété de quelqu'un. Et voilà, la personne était là, et voilà, la personne elle plonge dans sa piscine, elle remonte pas. Et lui, il va, il le sauve. Il est à la fois fautif d'être entré par... Donc il n'avait pas le droit d'entrer dans la propriété. Mais a priori, le bonhomme, il ne va pas lui en vouloir beaucoup, enfin, sauf s'il voulait se suicider, mais a priori, il ne va pas lui en vouloir tellement, puisque en faisant cette faute-là, il a pu lui sauver la vie. Donc on peut très bien avoir les deux choses en même temps. Il est kadosh, mais en fait, il est fauté parce que ce n'est pas le chemin qu'Hachem m'a demandé de prendre. Alors, il y a toute une procédure quand on arrive en fin de Naziroute, avec des korbanot, etc. Et aussi toute une procédure quand quelqu'un a échoué, il s'est rendu impur, par exemple, au milieu, donc il y a une procédure, puis ensuite il faut recommencer le compte.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qu'on vient de dire sur le nazir, du fait que Hachem propose un chemin qui est pas qui est finalement fautif d'un côté, mais finalement bien de l'autre, avec le fait qu'on propose aussi à la sota une si, je sais bien qu'on la dissuade d'aller jusqu'au bout de la procédure, mais quelque part, si dans sa conception de la pureté, elle pouvait pas continuer à vouloir vivre avec cette faute, elle a quand même la possibilité, elle aussi, de se suicider, de mettre un terme à sa vie.
Bien compris. Répétez, s'il vous plaît.
Je disais qu'en fait, la sota, on lui propose un chemin duquel on la dissuade pendant tout le cours de
C'est
la
on lui a
procédure.
proposé, hein. C'est pas on lui a rien proposé. C'est son mari l'a averti,
Oui,
et puis elle a choisi ça, c'est qu'on lui a pas proposé ce chemin.
c'est vrai, mais en même temps, on se situe entre deux choses contraires. On voit bien qu'il y a deux choses contraires qui se mettent en place, puisque en même temps, on la conduit finalement vers cette procédure qui mène à comme une forme de... C'est comme une forme de suicide, puisqu'elle aurait toujours la possibilité de, elle, dire non, mais qu'en même temps, elle peut toujours continuer à dire oui. Donc, on met en place comme ça une sorte de...
Ah ben, je crois pas, je pense pas que c'est pas du tout comme ça, parce que la procédure, elle est entrée dans cette procédure par défi par rapport à ce que son mari lui a dit, que tu me soupçonnes de pas du tout, il va rien se passer, ou bien effectivement, elle a pris à la légère cette affaire. Bon, et donc elle a fait une mini faute, ici, Et donc, ils se sont, lui parce qu'il avait parlé de cette manière-là, et elle parce qu'elle a agi de cette manière-là, ils ont mis le doigt, je vous ai dit, dans l'engrenage. Alors après, on lui dit, on a très peur. On a très peur qu'elle soit vraiment adultère et que qu'elle pense, elle a tellement honte de dire publiquement qu'elle est adultère qu'elle préfère mourir, quoi. Mais en fait, elle se rend pas compte que c'est pas une mort, c'est insupportable. Alors on lui dit, ne crois pas du tout que tu puisses pas arrêter l'affaire sans dire que tu es coupable. Tu peux très bien arrêter l'affaire et tu n'as pas besoin de dire que tu es coupable parce que peut-être tu ne l'es pas. Et effectivement, si tu dis j'ai peur, donc tu n'as pas besoin d'une explication, mais on peut très bien dire j'ai peur parce que c'est effectivement fait pour effrayer, fatiguer, etc. On ne veut pas. C'est-à-dire qu'en vérité, Akash Bourou ne veut pas. S'il y a eu adultère, il ne veut pas qu'elle continue. Elle préfère pas qu'il divorce, on n'est pas obligé de mourir. Il n'y a pas de témoins qui lui ont dit, elle a pas, ça ne relève pas du tribunal, donc Akash Bourou, il n'est pas intéressé à ce qu'elle meure. On ne veut pas qu'elle meure, elle ne mérite pas de mourir. On ne veut pas qu'elle, parce que, ou bien parce qu'elle elle évalue mal la situation, elle va aller à la mort plutôt que de dire non, je descends du train, je ne continue pas. Donc c'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout. Je crois que c'est pas du tout la même chose. Mais maintenant, vous pensez que c'est comme ça, je ne sais pas. Mais je ne crois pas du tout que ce soit un peu comparable. Par contre, l'histoire du nazir, c'est intéressant que la Torah, elle a donné cette possibilité. C'est-à-dire, on lui reproche, on lui dit ça ne suffisait pas. Oui, mais à la limite, la Torah, elle a donné cette possibilité. Pourquoi elle a donné cette possibilité? Parce que pour que l'homme soit libre, parce qu'il y a des gens qui pensent que ben, moi, j'ai besoin de quelque chose de personnalisé, que j'ai en propre pour m'approcher d'Hachem. Je veux m'approcher d'Hachem de cette manière-là. Il invente quelque part une autre façon de s'approcher d'Hachem. Alors, en vérité, ce que la Torah dit, c'est tu ne peux pas inventer de toute pièce, si on veut. Mais là, on va te donner un cadre dans lequel tu vas pouvoir inventer ce que tu veux. Parce que dans les Nédarim, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais là, tu veux un statut. Voilà, tu ne peux pas inventer un nouveau statut, mais il y en a un à disposition. Voilà, le statut, c'est nazir. Alors, avec des limitations, avec toutes sortes de dynimes, des procédures pour sortir, etc. Oui.
Puisque la Torah donne cette possibilité, la femme a la possibilité de divorcer depuis le début.
De quoi, de...
Ce soir, je ne vois plus l'intérêt de la manipulation de la sota. Depuis le début, si son mari met en doute son honnêteté, sa sainteté, elle a la possibilité soit de le convaincre, soit de divorcer. S'il ne veut pas entendre sa
elle,
parole...
Elle n'a rien besoin de faire. Si elle ne s'isole pas, il ne se passe rien.
Oui, mais mettons qu'elle se soit isolée, qui est ce cas? Si son mari veut entendre...
Lui, il est plus maître, elle ne peut pas obtenir de lui qu'il annule la procédure. Il a mis le doigt, je peux dire, dans le grenage. Lui, il ne peut pas annuler la procédure.
Non, mais ce que je ne comprends pas, Raph, c'est sûrement un intérêt, mais je ne comprends pas ce soir, qui est ce système... Alors que les Kohanim eux-mêmes lui disent de biaiser.
Ils ne lui disent pas de biaiser.
Ils disent si tu as peur, dis que tu as peur et tu.
Divorce, ce n'est pas biaiser. Divorce. Divorce. Divorce plutôt que de risquer ta peau. Enfin, oui. Ouais. Si elle est sûre de son coup, elle peut aller jusqu'au bout, c'est une bracha, hein. Oui. Vous savez, on dit que Hana, la mère de Shmuel, elle a menacé Hachem. Elle lui a dit, si tu ne me donnes pas maintenant si ce n'est pas que j'ai un enfant, j'utiliserai cette procédure-là. Je me ferai sota, il faudrait imaginer que son mari soit d'accord, je me ferai sota, à ce moment-là, comme je n'aurai rien fait de mal, tu seras obligé de me donner c'est la promesse. Si elle n'est pas adultère, si elle n'a pas d'enfant, qu'elle en veut, elle en aura, etc. Donc, le Midrash dit que Hana, elle a dit à Hachem, ou bien tu fais ce que je demande maintenant, ou alors tu me pousses, tu m'obliges à passer par là. Mais j'ai donc un moyen. Quelque part, ça veut dire, si on le veut, on peut dire, cette procédure, c'est une procédure avec la complicité du mari, etc. On pourrait imaginer que effectivement une femme fasse cette chose-là et que comme ça elle force Hachem à lui donner un enfant.
J'ai une question.
Oui.
Mais si le mari il rentre dans la procédure pour qu'elle puisse avoir un enfant, du coup il est pas clair, il est pas net. Alors pourquoi la procédure elle marcherait?
Pourquoi il est pas net?
C'est un mensonge, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans le jeu de la femme pour qu'elle puisse avoir un enfant. Donc tout est pipé.
Tandis qu'il est pas net, ça veut dire que lui aussi il a des relations extérieures.
Et le fait qu'il lance la procédure dans une intention qui n'a rien à voir avec la procédure elle-même, ça n'invalide pas la procédure elle-même.
Et si Hachem a donné cette procédure-là, on a le droit d'être malin même avec Hachem.
Ah bon?
La Mara, elle dit, on dit que si on donne Maaser, on s'enrichit parce que le Ein Shin Resh, c'est aussi la Hashirut, la richesse, la racine du Maaser. On dit Aser Bishvil Shetit Asher. On a le droit de donner du Maaser pour devenir riche.
Oui, mais là, on ne ment pas, Rav. On oriente. Mais là, le mari va, puisque la femme va solliciter son mari pour lui dire, voilà, j'engage cette procédure, mais en fait, je ne me suis pas isolée.
Si, il faut qu'elle s'isole.
C'est encore pire.
Non, elle est obligée, ils sont obligés de prendre ce risque. Si elle ne s'isole pas, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire, tu m'obliges à faire quelque chose que je n'ai pas du tout envie de faire, mais je suis obligé d'en passer par là. C'est pas quelque chose où elle fait rien. Tu m'obliges à en passer par là. Donc, elle peut protester en quelque sorte. Ma chère me dit, tu vas quand même pas m'obliger à faire une chose pareille.
Mais Rav, c'est quand même une procédure où il y a l'effacement du nom d'Hachem. Donc, si on le fait dans une intention...
Hachem a accepté... Oui, mais si vous voulez, Hachem a accepté ça. Le Midrash qui dit que Hana le fait, si Hana, si on peut présenter ça comme une possibilité pour Hana, c'est que c'est permis. C'est sûr que Hachem est d'accord que c'est une forme. Du coup, ça deviendrait presque une prière. Et dans la prière, on utilise aussi le nom d'Hachem pour prier. Pour avoir un enfant. Des femmes qui ont prié pour avoir un enfant, elles ont utilisé le Shem Hachem.
Oui, mais dans la prière, il y a la Emouna qui s'exprime. Là, c'est une technique.
C'est technique, c'est une Emouna, hein, vous savez. Il faut quand même une certaine Emouna pour penser qu'on boit de l'eau avec un peu d'encre effacée. Ça va vous donner au nom d'un enfant et ou bien ça va vous tuer. C'est un problème d'émouna, non?
Oui.
Bon, si vous prenez un peu d'encre et un peu de poussière, il ne va rien se passer. Hein. Ça se passe parce que Kadosh Baruch Hu nous a dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc j'ai émouna, donc c'est aussi de la émouna. Il n'y a rien qui marche sans émouna. Il y a des degrés d'émouna, mais un problème d'Emouna. Ça, c'est Nazir. Le troisième sujet, c'est Birkat Kohanim. Troisième sujet, c'est Hachem dit à Moshe Rabbeinu, parle à Aaron et à ses enfants et dis-leur, voilà comment vous allez bénir les Bnei Israël. Emor Lahem, comme Zachor, Shamor, Rashi dit Belaz, 10 ans. En français, c'est 10 ans. Il leur dit, en 10 ans, enfin, Hachem leur dit de leur parler, et en leur disant, donc, il faut tous que tous entendent. Et vous n'allez pas, c'est marqué ici, le Amor Lahem, si vous avez le texte devant vous, vous verrez que Amor est écrit complet, ça veut dire avec un vav entre le même et le riche. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire Amor, ça veut dire prenez tout votre temps. Prenez tout votre temps pour le faire. Je ne veux pas que vous jetiez la bénédiction comme ça, en Israël rapidement, comme ça. Ça doit prendre du temps. Et voilà ce que vous. C'est comme ça que vous allez venir. Et donc, il y a trois versets. Yevarecha Hashem Vishmerecha. Donc, que Hashem te bénisse et qu'il te garde, qu'il te protège. Yaer. Hashem pana velecha vichuneka. Qu'Hashem éclaire son visage dans ta direction, vichuneka, et que il soit gracieux à ton égard. Issa Hashem pana velecha. Qu'Hashem lève son visage vers toi. V'yasem lecha shalom, et qu'il te donne, il pose sur toi le shalom. Donc, et on dit v'samu et shmi al bnei Israël v'ani avarchem. Alors, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Eux, les Kohanim, tout ce qu'ils vont faire, c'est déposer le nom d'Hachem sur les bnei Israël. Et Hachem dit, et moi je les bénirai. C'est intéressant. C'est présenté comme, voilà comment les Hachem dit à Moshe Rabbeinu, dit à Aaron, comment lui et ses fils vont bénir. On a l'impression, et c'est ce que l'on appelle ça, Birkat Kohanim, la bracha des Kohanim. Mais à la fin, on dit, c'est pas du tout la bracha des Kohanim. Les Kohanim, ils font pas la bracha, ils mettent, c'est pas eux qui bénissent. Hachem dit, Vani Avachem. C'est moi qui les bénirai. C'est-à-dire que, quelque part, alors on peut dire, ou bien c'est je bénirai les Kohanim parce qu'ils ont fait ce que je leur ai demandé, ou bien c'est moi qui bénirai les Bnei Israël, bien sûr. C'est-à-dire, la bénédiction des Kohanim, ça consiste à poser mon nom. Et ensuite, mon nom va faire le travail. Puisque mon nom est sur les Bnei Israël, mon nom va les bénir en réalité. Donc, on voit que le summum, c'est le shalom, en fait. Parce que les Chachamim m'expliquent que s'il n'y a pas de shalom, toutes les autres brachot ne servent à rien. C'est pour ça que la dernière bracha dans la Amida aussi, c'est shalom. Tout le shalom. S'il n'y a pas le shalom, alors tout ce qu'on obtient comme brachot, ça va être abîmé par l'absence du shalom. Donc on pourrait penser que dans le Birkat Kohanim, que les Kohanim ont un pouvoir de bénédiction. Or, le dernier verset dit clairement qu'ils n'ont pas de pouvoir de bénédiction. Ils ont un rôle à jouer, ils doivent poser le Shem Hashem sur les Bnei Israël. Mais la bénédiction elle-même, il y a que Hashem qui peut la donner. Et donc, ça veut dire que nous aussi, quand on donne une bénédiction, les gens qui bénissent leurs enfants, ou Shabbat, ou des choses comme ça, il faut savoir que nous, on ne fait que poser les bénédictions sur eux, poser le nom d'Hachem sur la personne. Ensuite, c'est comme si le nom d'Hachem lui-même fait son travail, quoi. Et donc, ce que nous, on appelle bénir, c'est poser le nom d'Hachem pour qu'Hachem bénisse. Donc, il ne faut jamais oublier ça quand on aime Varer, quand on donne une bracha. Surtout pas s'imaginer qu'on a un pouvoir de bénir. Non, on a le pouvoir d'appeler la bénédiction, de demander à Hachem de donner la bénédiction. C'est ça que ça veut dire. Ultimement, c'est toujours Hachem qui donne la bénédiction. Voilà, on va s'arrêter là. Un instant. Mercredi prochain, il n'y aura pas de chiot. Il faut le noter pour que vous ne veniez pas sur votre ordinateur pour rien. C'est pas de gros dérangement. Il n'y aura pas de chiot. Voilà, Shabbat Shalom.
Bonjour, merci.
Je vais commencer les...